8 ans.
8 ans. Bon, tu l'aimes toujours?
Toujours, hein.
Tu n'as pas le choix, aimé. Bon, en tout cas, bravo, tu repars avec...
Avec ton dîner gastronomique, voilà, pour deux personnes. Voilà. Tu peux aller avec ta fille, par exemple.
Voilà, tu vas te régaler. Non, je pense qu'il va aller avec Ophélie. Bravo, mon cher aimé. Merci de ta fidélité. On t'embrasse très fort. Et on embrasse, évidemment, Ophélie et tous ceux qui veulent être embrassés. Merci, mon cher aimé.
Ici, ICI. Une radio, une appli connectée à notre région.
Eh ben voilà, c'est fini.
Oh non,
Passez une belle semaine ici.
On part tout de suite au Mans. Ferrari a repris le contrôle des 24 heures cette nuit avec Porsche et Toyota en embuscade pour la plus prestigieuse course d'endurance automobile du monde. Léa Dubosc, vous êtes sur le circuit. Où en sommes-nous? Quelle est l'ambiance?
Eh bien, sauf énorme surprise, Ferrari est bien parti pour un troisième sacre d'affilée au Mans. L'écurie italienne qui domine le championnat domine également la course depuis la fin d'après-midi hier avec trois de ses voitures sur le podium provisoire. Pour voir le podium, justement, les spectateurs sont en train de se masser en face de la ligne droite des stands. À 3 heures de l'arrivée, tout le monde cherche la meilleure place. Certains sont arrivés très tôt ce matin. D'autres ont même passé la nuit au plus près de la piste sur des chaises pliantes. Vous l'avez compris, les mordus de Sport Auto sont bel et bien présents et ils sont de plus en plus nombreux. L'engouement pour l'endurance se confirme une nouvelle fois ici au Mans avec plus de 300 000 spectateurs sur l'ensemble du week-end, bien plus ensoleillé que l'année dernière, mais qui devrait donc se terminer de la même façon avec le mythique trophée pour Ferrari.
Léa Dubosc, ICI mène les 24 heures du Mans. C'est à suivre en direct sur ICI.fr. On vient d'apprendre la mort de la jeune femme qui avait été plongée dans le coma après avoir été blessée par la chute d'un arbre lors des orages vendredi à Paris. Un homme de 68 ans avait également été tué dans les Yvelines. Météo France appelle à nouveau à la prudence et lance une nouvelle vigilance orange dans 14 départements cet après-midi. Midi, des Vosges à l'Ardèche. Au troisième jour de frappe entre Israël et l'Iran, l'escalade continue. L'armée israélienne a engagé vendredi une offensive sans précédent avec l'objectif d'empêcher l'Iran d'obtenir la bombe atomique, ce qui a provoqué une riposte massive de l'Iran. Marie-Pierre Véro, des tirs qui se sont intensifiés, qui ont fait au moins 10 morts en Israël.
Oui, un bilan qui s'alourdit en Israël alors que l'Iran a intensifié effectivement ses tirs de missiles, notamment sur Tel Aviv et Jérusalem où les sirènes d'alerte ont de nouveau retenti cette nuit. Bilan provisoire sans doute, puisque plusieurs personnes sont portées disparues et que les secours sont toujours à pied d'œuvre dans les décombres. L'Iran entend saturer le ciel israélien. Certains de ces missiles parviennent d'ailleurs à déjouer les défenses antiaériennes. Plus de 200 missiles auraient été tirés. L'arsenal du régime iranien est estimé à quelques 2000 missiles balistiques et la guerre se poursuit donc. Israël vise notamment les rampes de lancement de missiles iraniens pour désorganiser la riposte de Téhéran ainsi que les raffineries et a appelé ce matin les Iraniens à évacuer les zones proches de sites militaires. Téhéran dit de son côté que ces attaques ne cesseront que lorsque, je cite, Israël cessera son agression. Benjamin Netanyahou avait prévenu que l'offensive israélienne pourrait durer jusqu'à 2 semaines. Le premier ministre israélien qui veut anéantir le programme nucléaire iranien et continue dans le même temps à cibler les centrales nucléaires, donc en Iran.
Marie-Pierre Véro pour ICI. Nicolas Sarkozy prend acte de son exclusion de la Légion d'honneur et son retrait de l'Ordre national du mérite en raison de sa condamnation dans l'affaire des écoutes, mais il a engagé un recours dans cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, rappelle aussi l'avocat de l'ancien président. Un nouveau concurrent pour la SNCF sur le TGV Paris-Marseille, l'Italien Trenitalia lance une nouvelle offre avec un tarif agressif à partir de 27 euros et 4 allers-retours par jour avec des arrêts prévus à Lyon, Avignon et Aix-en-Provence. N'oubliez pas la fête des pères aujourd'hui, l'heure d'ouvrir peut-être les cadeaux à table ce midi, en rappelant qu'avant tout c'est l'intention qui compte et c'est vrai que parfois on a connu quelques ratés.
Une carte faite main, mais pas terrible. J'étais petite et je dessinais pas très bien et c'était pas marqué papa, c'était marqué pépé.
Moi je crois que c'est un outil qui avait déjà acheté la veille, une visseuse. Et j'y étais avec lui, mais j'ai pas percuté qu'il avait acheté la même.
En fait, on a du mal à savoir ce qu'il aime bien. Puis il est assez discret, donc c'est les cadeaux classiques de papa. Truc un peu bidon, je t'aime papa sur des tasses. Ça fait toujours plaisir, même s'il le montre pas, je pense.
Il y a 2-3 ans, j'avais oublié que c'était la fête des pères, le jour où je devais aller le voir. Et j'ai fait un dessin et j'ai écrit en bas pour te rappeler des souvenirs.
Je l'ai vraiment fait à l'arrache. Il l'a bien pris, puisqu'il l'a gardé, il est toujours sur son frigo.
Voilà, comme quoi, hein, les papas pardonnent tout souvenir de cadeaux ratés de la fête des pères, recueilli à Valenciennes au micro ICI Nord. Et puis le départ dans une demi-heure de la dernière étape du Critérium du Dauphiné, du Val d'Arc au Valceny en Savoie, avec toujours Pogacar en maillot jaune. Ce sera aussi la dernière fois qu'on verra Romain Bardet. Il a décidé de mettre fin à sa carrière ce soir.
L'actu d'ICI, toujours avec vous, c'est sur l'appli ICI.
Nouvelle alerte aux orages cet après-midi, 14 départements en vigilance orange, des Vosges à l'Ardèche, ailleurs reste couvert dans le sud-ouest, alors qu'il y aura de belles éclaircies de la Bretagne au Hauts-de-France et du soleil en Méditerranée. Prévoyez, si vous êtes à Brest et Biarritz, Cherbourg et Limoges cet après-midi, 21 degrés, 22 à Toulouse, 24 à Paris, 25 à Dijon, 26 à Lyon, Strasbourg, 30 à Perpignan, Nice et Marseille, 34 à Ajaccio. Demain, ce sera le retour du soleil et d'un temps calme tout au long de la journée avec des températures qui vont un peu remonter.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Salut à tous, bienvenue ici sur votre radio. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque week-end pour notre voyage dans le temps. Dans le rétro, c'est un invité et une balade au fil de sa carrière, de ses souvenirs. Ce sont des joies, des peines, des doutes, des batailles, des succès, des questionnements parfois semblables aux nôtres. C'est une vie, finalement. Une vie, c'est le nom aussi de son nouvel album. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste et mélodiste incontournable de la scène française. Il chante et enchante ceux qui l'écoutent. Il compose et dépose des mots sur des mélodies romantiques et poétiques. Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Votre 28e album est sorti le 28 mai. Le 28, c'est symbolique ou c'est un hasard ?
Oh, hasard.
Sur cet album, vous avez bossé avec Benjamin Biolay, vous avez composé les musiques sur les textes de Serge Lama, Gaëtan Roussel, Carla Bruni, Didier Barbelivien, Paul École. Extrait.
Minuit de centre-ville, où je délaisse un peu les oiseaux de malheur. Une promenade en vélo avec Eddie Cochran au tempo. Ça, ça arrive à tout le monde. Je rêvais d'être un cerf-volant, de déployer mes ailes au vent. Fou de Bassan ou Corporan.
Ce drôle d'oiseau, Julien Clerc, c'est vous ?
Oui, c'est moi, oui. Ce sont des mots de David McNeil, qui n'avions pas travaillé ensemble depuis un certain temps, depuis Mélissa, je crois.
C'est ce que j'allais dire, c'est celui qui a bossé sur Mélissa avec vous.
C'est lui qui a écrit, ouais. Mélissa, oui, bien sûr. Non, on avait écrit après... première fois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble, oui.
C'est quoi un drôle d'oiseau ?
Ben, un drôle d'oiseau, c'est comme la chanson, c'est avec des termes... des termes d'oiseaux, c'est une comparaison entre une vie d'artiste finalement avec des termes d'oiseaux, c'est assez bien trouvé. Il aurait pu s'appeler le disque Drôle d'oiseau, mais enfin bon, c'est un petit peu trop, on va dire, humoristique.
Drôle d'oiseau, c'est quelqu'un à part aussi qui peut se sentir un peu en décalage parfois, non ?
Peut-être, ouais. Pourquoi pas.
Dans Drôle d'oiseau, vous y évoquez la liberté. Ouais. Un artiste, c'est être libre, mais est-ce que c'est pas parfois se sentir enfermé par rapport, je sais pas, au désir du public, par exemple, par rapport aux médias, par rapport à des prises de parole qu'on peut avoir ? On n'est pas un peu bloqué ?
Non, on n'est pas bloqué si on a décidé d'être un homme libre. Je me suis toujours présenté tel que j'étais. J'ai certes essayé de ne jamais me mêler de politique parce que je ne pense pas que ce soit bien utile. Il y a des gens dont c'est le métier pour ça. Par contre, si je pouvais faire des prises de parole sociétales, j'ai essayé de le faire toujours au long des années, oui.
Vous avez défendu de nombreuses causes, vous êtes investi dans des associations, et c'est vrai, par certains titres aussi, vous êtes...
Ouais. Dès que ça peut être à travers la chanson, je préfère.
Ouais, c'est plus rassurant, c'est plus confortable.
C'est pas simplement rassurant et confortable, c'est que c'est quand même... la musique, c'est mon truc à moi, si vous voulez. Et donc, je pense que ça aura plus de force si ça passe par la chanson. Parce que les chanteurs sont des gens... Évidemment, il y a des gens beaucoup plus importants que nous sur Terre. Mais une chanson, c'est que c'est un art populaire, la chanson. Et quand on arrive à raconter une chose importante, écoutez, au moment de la peine de mort, Badinter m'avait envoyé une lettre, il m'avait dit, écoutez, votre chanson, elle fait plus pour la cause que des discours ou des conférences. Il m'avait dit, non, ça m'avait d'ailleurs énormément flatté et fait très plaisir. Et si lui le disait, dont c'était le combat principal à l'époque, on va dire que j'avais cru ce qu'il m'avait dit.
Julien Clerc, quand vous bossez sur un album, vous composez la mélodie à partir de textes qu'on vous envoie. Vous n'imposez rien.
Ou le contraire.
C'est plus rare.
Oh non.
Non.
Non, et souvent, vous savez, les chansons qui touchent, faut pas faire de généralité, mais souvent les chansons qui touchent le cœur du public directement, c'est souvent une chanson avec la musique écrite d'abord.
Hein. Ouais.
Ouais. Ça a été le cas pour Ma Préférence, ça a été le cas pour Mélissa sur cet album, c'est le cas pour Les Parvis, par exemple. J'essaie toujours qu'il y ait dans un album moitié-moitié.
Bah, en fait, il vaut mieux justement composer la musique avant, alors. Si ça
oui,
plus,
mais c'est pas si évident toujours. et puis ça fait des chansons différentes quand même. Non, il faut les deux. Ouais. Faut les deux.
Vous, vous n'imposez rien, mais vous avez des chansons que vous dites, vous les appelez des chansons de commande.
Oui.
Elles se comptent sur les doigts d'une main, paraît-il. Quelle commande vous avez passée, par exemple, sur cet album ou sur un autre d'ailleurs?
Sur cet album, la chanson pour mon frère, par exemple, ouais. C'est une commande.
Parce que
enfin, c'est une commande, c'est un vilain terme, mais j'ai dit à Paul École, si ça vous inspire, Paul, j'aimerais avoir une chanson pour mon frère sur cet album. Voilà comment je lui ai présenté.
Parce que vous, vous ne vous imaginiez pas écrire à ce moment-là?
Ah non, mais jamais. J'ai compris très tôt que je n'étais pas bon pour écrire des textes.
Il y a parfois de la douleur, Julien Clerc, de la souffrance, de la peine dans les sujets que vous abordez, mais ce n'est pas un album triste. La tristesse, c'est une émotion que vous voyez comme quelque chose de négatif.
Non, mais la tristesse, pourquoi pas? Mais juste sur ce thème de mon frère en particulier, qui n'est pas un thème gay... Mais je ne voyais pas une chanson triste, simplement. Mmh. Je n'imaginais pas une balade, si vous voulez, triste et pathos, etc. Je voyais plutôt
quelque
un truc qui lui ressemblait, voilà, qui était plutôt gay. Ouais.
Julien Clerc, Une vie, c'est le nouvel album. Donc, c'est l'amour parental, l'amour conjugal, le deuil, la maladie, la mémoire, des thèmes universels qui traversent nos vies. On va y revenir au fil de cette émission. Extrait de cet album, voici Les Parvis. Ici, c'est votre radio, dans le rétro, votre émission. Et Julien Clerc, notre invité.
Marbres et faïences. Pied d'une église, l'horrible silence des larmes et du lys. Soudain il commence, cet homme en costume, quelques pas de danse à titre posthume. Son bel amour qu'on a ravi. Il tourne et il danse. Et c'est encore de la vie. Ayons parfois l'élégance.
Harvey, ici sur votre radio, titre que vous retrouvez sur l'album Une vie de Julien Clerc, notre invité aujourd'hui.
Ici, dans le rétro.
Allez, on enclenche la téléportation, c'est parti pour notre voyage dans le temps. Vous naissez dans le 19e arrondissement de Paris. Votre père Paul veut vous donner comme prénom le sien, héritage familial. Et votre mère Evelyne souhaite vous appeler Alain. Vous vous appellerez donc Paul Alain. Pas de concession. Pourquoi Julien ensuite alors?
Parce que j'ai jamais trop aimé mon prénom en fait.
Parce que composé?
Pas seulement, je trouvais que ça n'allait pas très bien ces deux prénoms. Et donc quand j'ai chanté en fait à la fois pour pas gêner mon père, pour faire une vraie scissure entre ma vie d'avant et ma nouvelle vie, j'ai choisi de ne plus m'appeler Leclerc, qui est mon nom de famille, et surtout de trouver un autre prénom qui me plairait. J'ai donc pris un calendrier. C'est un vieux prénom, comme on dit à l'époque, moi, quand je l'ai choisi. Il y avait très peu de Julien de ma connaissance, et ça avait un côté romantique qui me plaisait.
Mais votre père l'a pas mal pris, justement, de vouloir changer le...
Non, je pense pas. Ouais. Non.
Dans votre famille, Julien Clerc, il n'y avait que des profs de français, de latin, de grec, des employés de banque ou des femmes de ménage. Des milieux donc super différents. Votre père plutôt milieu intellectuel, votre mère milieu ouvrier. Être d'un milieu social différent, vous croyez que ça peut compliquer l'amour?
J'en ai pas rencontré souvent dans ma vie. En gros, pour parler clair, quelqu'un qui a épousé la fille de la femme de ménage.
Oui, parce que c'est ça en fait.
Oui, c'est exactement ça. Donc... Il y a eu comme ça cet apport de deux classes sociales différentes, avec un père très gaulliste, un grand-père maternel très communiste, et de passer d'un foyer à l'autre comme ça. Toutes les fins de semaine, je quittais cette banlieue plutôt préservée qui s'appelle Bourg-la-Reine pour aller dans un coin populaire du 14e arrondissement. Je changeais quasiment complètement de tout, c'est-à-dire de foyer, changeais d'opinion politique, changeais de musique, puisque chez mon père, plus exactement chez ma belle-mère, il n'y avait que de la musique classique, on n'entendait que ça. J'arrivais chez ma mère, on entendait de la chanson, du jazz.
Mais justement, je vais vous replonger dans cette ambiance, ouais. Puisque vos parents, effectivement, divorcent, vous avez 18 mois. La semaine, vous êtes à Bourg-la-Reine, chez votre papa, c'est musique classique et discours de De Gaulle, pendant que votre belle-mère Ghislaine joue du Bach. Et puis, le week-end, c'est le 14e arrondissement de Paris, la porte d'Orléans, chez votre maman, qui écoute Brassens, Montand, Ferré. Votre père s'est battu vraiment pour avoir la garde. 2 ans de bataille judiciaire. Est-ce que ça peut briser un homme de se battre pour garder son enfant?
Ça l'a un peu brisé à l'époque. Parce que c'était très rare que les juges confient le fils au père. Donc oui, lui, il s'en est sorti avec, je crois, une maladie. Enfin, il a fait une crise cardiaque, d'ailleurs, tout simplement. Donc oui, il s'est battu énormément. Et après, quand l'adrénaline est retombée, il l'a payé, certainement. En même temps... Il était mieux préparé que ma mère, d'abord qui était très très jeune, et qui était sûrement, qui a préparé un dossier sûrement moins solide que lui a fait.
Déjà, le divorce était rare à l'époque, mais en plus que la garde d'un enfant soit donnée au père plus qu'à la mère, c'est vrai que ça, c'était super rare. Hein,
c'était très rare, et puis elle a dû, d'une certaine façon, comme elle était quand même, je répète, très jeune, très peu de moyens... Est-ce quand même sous influence intellectuelle, je crois, de cet homme qu'elle avait épousé encore plus jeune. Elle a plus ou moins laissé faire, je pense. Elle s'est dit, elle me l'a dit d'ailleurs par la suite, il va être mieux élevé. Elle a un peu baissé les bras. Quoi.
Elle vous l'a dit quand vous aviez quel âge, ça ?
Elle me l'a dit très jeune. Elle m'a parlé un peu trop d'ailleurs, à mon sens, dès que j'étais en âge de tout comprendre. Elle m'a beaucoup, beaucoup parlé de leur histoire, évidemment. On sait que dans les histoires d'amour, il y a deux versions toujours, donc elle m'a raconté évidemment sa version, mais alors que mon père lui ne m'a rien dit, pendant très longtemps...
Il ne voulait pas en parler d'ailleurs, je pense.
Il ne voulait pas en parler, et il m'en a parlé, mais quand j'étais déjà père de famille moi-même.
Quel âge alors du coup?
Je ne sais pas, j'avais 30 ans et quelques quand il m'en a parlé. Ouais. Quand il m'a enfin donné sa version des choses.
Mais pour vous transmettre quelque chose ou...
Non, je pense qu'il était comme ça, et que par pudeur, il n'avait pas voulu le faire. Et que peut-être, je ne sais pas, à ce moment-là, il a senti qu'il fallait qu'il me le dise, parce que j'étais père moi-même, sans doute.
Julien Clerc, cette double enfance que vous avez eue, vous la chantez.
Deux maisons, deux quartiers, deux gâteaux d'anniversaire, multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côté. Avant les autres, j'aurais su.
Quand vous évoquez le divorce, vous dites que c'est une blessure particulière, que seuls les enfants de divorcés peuvent vraiment ressentir. Des enfants de divorcés, il y en a de plus en plus.
Ouais.
C'est quoi cette blessure, cette fêlure?
Non, mais c'est une fêlure qu'on a tous, et on se reconnaît tous entre nous, je trouve. Hein, et c'est surtout, c'est l'inverse. C'est-à-dire, je crois que les enfants qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas vraiment le comprendre.
Mais comprendre quoi, alors?
Eh ben, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette représentation idéale, comme sur une photo du père à côté de la mère, on ne l'a plus. Si vous voulez. Moi, je n'ai pas revu mes parents ensemble avant mon premier Olympia. Et là, ils sont venus, tous les deux, évidemment, chacun, avec bon, évidemment, mon père avec ma belle-mère qui m'avait élevé, finalement. Hein, mais ma mère avec son nouveau mari. Et je ne les ai pas revus côte à côte, finalement, pendant 20 ans. Alors que c'est une image qu'on trimballe toute notre enfance. Après, ça se passe plus ou moins bien. Il y a des gens qui sont raisonnables et ouais, qui ne se bagarrent pas en se servant des enfants pour se faire du mal. Et puis, il y a ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas échapper à ça, un divorce rude. Et ça, ça laisse encore plus de traces, je
Est-ce
trouve.
Est-ce qu'on fait gaffe par la suite, justement, quand on a vécu, nous,
ben, malheureusement,
le divorce de nos parents?
Ben, malheureusement, non.
Ouais.
L'avenir. On fait gaffe. Moi, j'ai toujours fait attention quand même.
Aux enfants.
Puisque malheureusement, j'ai fait vivre ça à mes enfants aussi. Que ça se passe au mieux possible. Et de rester amis me semble une chose importante. Quand on s'est aimé et qu'on ne s'aime plus, rester amis est une chose primordiale, je pense.
Une façon de préserver les enfants aussi qui n'ont rien à
voir. Bien sûr. Mais il leur restera toujours quelque chose. De toute façon, mais quand ils voient leurs parents amis, quand même, ça fait du bien.
Julien Clerc, Une vie, c'est le nouvel album et la tournée aussi prochainement. Notre invité aujourd'hui, donc, c'est Julien Clerc dans le rétro. On revient dans un instant ici sur votre radio.
Even your year, but I
Votre radio locale France Bleu devient ici.
Ici, c'est des journalistes et des animateurs qui nous connaissent. Ils sont tous les jours sur le terrain à côté de chez nous.
Ici, une radio à vos côtés pour de vrai.
Ici, c'est l'actu là où elle se passe, là où on la vit.
Vous écoutez ici.
Ici, le média qui vit comme nous, comme nous. Ici.
Travailler avec une personne de plus de 50 ans, quelle idée !
Ben moi, ça a été la réponse à tous mes problèmes. Ça fait 11 ans qu'Isabelle travaille dans mon entreprise et c'est l'employée la plus fiable. Elle se forme en continu et c'est elle qui s'y connaît le mieux en IA.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Ici.
Ici. ICI.
Toute la journée.
Ici. Actu locale, musique et bonne humeur.
Je veux bien les larmes et la douleur, je veux bien les doutes, je veux bien que vivre encore me coûte. Je veux bien la laideur et l'oubli, je veux bien trembler, je veux bien ne plus pouvoir chanter. Il me reste tant de choses à dire, tant de gestes pour te faire sourire. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. Qu'elle attend de la mort. Je veux t'aimer encore. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Je veux voir les enfants des enfants dans des courses folles et leur parler du bon temps en espagnol. Oh mon Dieu, je ne demande rien, rien qu'un peu de temps dans tes mains. Je veux t'aimer encore, je veux t'aimer encore. J'ai la tente de la mort. Je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore. Et je reste là, oui je reste là. Je me tiens au mien, mes mains ne tremblent pas. Et je reste là, oui je reste là. Je veux t'aimer encore, qu'elle attend de la mort. Je veux t'aimer encore, je veux donner bien plus que ce que j'ai reçu, que le diable m'ignore. Je veux t'aimer encore.
Bon week-end, vous écoutez ici, l'émission c'est Dans le Rétro et notre invité c'est Julien Clerc.
Ici, Dans le Rétro, Déborah Grunewald.
Julien Clerc, on part maintenant en 1961, c'est les vacances de Pâques. Vous faites là un voyage de classe. C'est Monsieur Peretti, votre prof d'italien au lycée La Canale de Sceaux, qui l'a organisé. Après avoir visité quelques églises baroques, est-ce qu'on parle de cette photo, la pipe aux lèvres à 14 ans?
Ah, oui.
Ah bah trop tard, j'en ai parlé.
Oui. Et c'était les églises de style baroque sicilien.
Sicilien, exactement.
Mais il était extraordinaire. Je pense que... on se souvient tous d'un enseignant.
Mais... Non, mais ne changez pas de sujet, parce que là, je voulais vous lancer sur la pipe à 14 ans.
Oui, bah, c'est vrai. Et donc, je fumais. Ça veut dire que je fumais, si je fumais la pipe, finalement.
14 ans, quoi.
Et mais j'écoutais du jazz, en plus. Voilà, je fumais la pipe en écoutant du jazz. Bon, mais Cécile, c'est important de parler des professeurs, parce que plus j'avais de recul, plus j'ai trouvé que ça avait été un professeur extraordinaire qui se donnait un mal fou pour ses élèves. C'est une époque qui révolue, je crois, aujourd'hui.
Il vous mettait au piquet,
par exemple. Ah, au piquet,
ouais.
Des mecs de 14 ans.
Ah, il vous mettait au piquet,
il y avait un gars qui avait déjà, qui était une pilosité avancée, académique, il était en retard, il avait 15 ans. Je me souviens, il avait de la barbe, il le mettait au piquet, c'était trop rigolo. Ça n'existe plus. On n'entendait pas un bruit dans sa classe.
Aujourd'hui, ce serait considéré comme un acte humiliant.
Oui, peut-être.
Aujourd'hui, on ferait ça dans une salle de classe.
Mais pas une vous n'entendiez pas une mouche voler dans sa classe.
Mais c'est marrant parce que vous dites, quand on a vu ce gars-là au piquet, c'était marrant.
Oui, c'est marrant.
C'est pas ce qu'on se dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, on se dit, waouh.
Nous, ça nous avait vraiment fait rire. Alors.
Parce que ça n'a pas été traumatisant. Donc, du coup, c'est pas des choses qui ont été traumatisantes.
Ils s'en foutaient complètement, franchement. Alors là, il avait sa barbe, de l'humour, il n'y avait aucun problème.
Adolescent, Julien Clerc, vous découvrez les vinyles de Ray Charles, Aretha Franklin, Bob Dylan, vous écoutez les Beatles, les Rolling Stones, Téléportation. Printemps 1967, trois places de la Sorbonne à Paris, nous sommes à l'Écritoire, un bistrot où les étudiants se retrouvent, rencontre avec Rhoda Gilles qui vous écrira pas mal de chansons, dont certaines devenues des tubes.
Je sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la.
Ado Julien Clerc, vous écriviez des textes, il me semble. Je me trompe pas.
Oui, c'était pas bien.
Mais oui, mais alors pourquoi avoir arrêté ? Ils étaient vraiment pas bien ?
Ah non, c'était pas bien, non.
Enfin, pourquoi ?
En tout cas, ce n'est pas ce dont j'avais envie. Je ne savais pas très bien de quoi j'avais envie. Mais je savais de quoi je n'avais pas envie. Et c'était mes textes, ça c'est sûr.
Mais pourquoi ? Parce qu'on vous l'a, on vous l'a dit ?
C'est
gens
moi.
Qui vous le montraient. Ah, c'est vous.
J'ai très peu montré. J'ai commencé à montrer quand on commençait à écrire avec Étienne Rodagil et Maurice Vallet, qui était mon ami d'enfance, on va dire.
Momo ?
Mais franchement, à part ma fiancée à l'époque, même mes copains, les plus proches, ils faisaient bof hein, quand je leur montrais.
Ah, votre fiancée, elle faisait bof.
Oui,
sur des chansons d'amour, peut-être qui lui étaient destinées, elle disait ouais.
Ah non, elle aimait bien, mais c'était la seule. C'était la seule. Mais mes paroles à moi, c'était pas terrible, franchement, non.
T'as parlé de quoi ?
Je sais pas, sûrement d'amour, mais c'était pas. Vous savez, j'admirais grâce à ma mère, hein, puisque c'est elle que j'ai entendu ça, les grandes chansons la première fois. Mmh. Et puis après, je m'achetais les disques de Barbara sur lesquels je faisais mes devoirs, etc. Mais j'ai eu la chance d'aimer dès le début des grandes chansons quand même.
À texte, ouais.
Hein, tout ça. Et donc, j'étais quand même marqué par ça. J'ai bien vu tout de suite que moi, ce que j'écrivais, ça n'allait pas, si vous voulez. C'était pas l'idée que je me faisais d'une bonne chanson.
C'est quoi une bonne chanson ?
C'est une chanson où, évidemment, les mots et la musique vont bien ensemble, ça c'est la moindre des choses, mais aussi il faut qu'elle ait une espèce de grâce dont on ne sait pas d'où elle vient. En tout cas, les tubes, quels qu'ils soient.
Ouais, mais ça vient de la musique aussi beaucoup, cette grâce qui... Non ?
Non, c'est le mélange des deux, et souvent même la voix de l'interprète vient rajouter une grâce supplémentaire, on va dire. C'est ce que disait Rhoda Gilles toujours. Il disait une bonne chanson, il disait c'est un bon texte, une bonne musique, mais aussi souvent la voix qui va avec.
Julien Clerc, au fil de votre carrière, vous avez collaboré avec plusieurs paroliers, donc Étienne Rhoda Gilles, puis Jean-Loup Dabadie, 1976 sur l'album « À mon âge et à l'heure qu'il est
».
En 78 sur l'album « Jaloux », on se souvient de ce titre, évidemment.
Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est, et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait, mais elle est ma préférence. À moi.
Et en 1982,
Femme, je vous aime.
Femme, je vous aime. Ce titre, vous célébrez la force, la diversité, la beauté des femmes. C'est comme un hymne, finalement.
Oui, et c'est Dabadie qui a écrit les paroles. Et quand j'hésitais au début à le chanter, parce que beaucoup d'années avec Rhoda Gilles m'avaient renforcé ma pudeur, si vous voulez. Vous voyez bien que Rhoda, il m'a jamais fait chanter « Je t'aime », par exemple, jamais. Sa feuille de route à Dabadie, c'était « Fais-moi dire des choses ».
Vous utilisez plus le jeu, en fait.
Voilà, tout d'un coup, avec Dabadie, c'était ça un peu son brief, quoi, on va dire. Et donc, quand il m'a écrit ça, c'était très direct. « Ah, femme, je vous aime », je trouvais ça presque un peu « too much ». Et il m'avait dit, Jean-Louis, il m'avait mis « Tu sais ». je l'ai écrit pour toi, cette chanson. Pour nous, disait-il, parce que c'est vrai que lui et moi, on était très semblables vis-à-vis des femmes. Et on pensait la même chose. Et, on a... bon. Et donc, il m'avait dit, mais tu sais que si Johnny ou Sardou m'avait demandé une chanson pour les femmes, j'aurais pas du tout écrit ça. Il m'a dit, hein, tu sais que je l'ai fait pour toi, pour m'encourager à la chanter sans complexe.
Julien Clerc, parmi les auteurs avec qui vous bossez, il y a aussi Daniel McNeil, Luc Plamondon. Je vous propose d'écouter un titre sur lequel vous avez collaboré avec Plamondon, Cœur de rocker. On vient juste après, ici, sur votre radio.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur. Julien Clerc ici sur votre radio. Julien Clerc de retour avec un nouvel album qui s'appelle Une vie. Une vie qu'on retrace aujourd'hui, c'est dans le rétro.
Ici, dans le rétro.
Une vie, c'est un album réalisé par Benjamin Biolay. Il avait déjà réalisé un de vos albums en 2008, Où s'en vont les avions. Ouais. Ce qu'il aime, dit-il, c'est votre exigence. Il dit qu'il a aussi appris qu'il était possible de faire un disque sans s'engueuler.
Ah bah bien sûr, il a raison. Vous savez, j'ai remarqué maintenant avec le temps que quand une chanson est facile de la composition à l'enregistrement, elle est peut-être porteuse, on va dire, de quelque chose pour le cœur des gens. Et là, je dois dire que tout l'album, il y a un tel respect et une amitié, j'ose le dire, entre nous, que ça a été 15 jours merveilleux.
Il parle justement de votre exigence. Quand on est exigeant avec les autres, c'est qu'en général, on l'est avec soi-même aussi, très exigeant. Est-ce que cette exigence, elle peut vous bouffer la vie parfois ?
Oh non, pas du tout. Non, moi je le prends plutôt comme un jeu, comme un travail sur soi, comme voilà, c'est plutôt.
Non, mais s'il y a travail sur soi, c'est que parfois ça peut être un peu compliqué. Quand
non,
même,
parce non que moi ça me plaît. Je suis ben voilà, je suis plutôt ce genre-là. Mais enfin, prenons un exemple. Mon sport depuis maintenant quelques années, c'est la natation. Il y a plein de gens que la natation, ça gonfle. Comme disait Manodo, je passe 18 km à compter les carreaux au fond de la piscine. Bon, ben, figurez-vous que moi, ça me plaît de compter les carreaux au fond de la piscine.
Et en général, il y a combien de carreaux pour avoir une idée de...
Non, je ne sais pas, ça dépend de la taille.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Mais je veux dire, c'est vrai que tout ce qui peut me faire progresser, s'il faut compter les carreaux, ça ne m'emmerde pas. Voilà.
2008, Julien Clerc, première collaboration donc avec Benjamin Biolay. Sur l'album, il y a le titre « Jupe en laine ».
Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil.
Clip réalisé par votre femme, Hélène Grémillon, talentueuse romancière. Romancière, tiens, c'est un lapsus, bon. Talentueuse romancière.
Ah oui, d'accord.
Téléportation, justement, on va la retrouver. Avril 2008, vous devenez papa pour la cinquième fois. Ce rôle de père, vous l'évoquez sur votre nouvel album Une Vie.
Pleure autant que tu voudras. Ta tête sur mon épaule. Un père, c'est fait pour ça.
Un père, c'est fait.
C'est fait pour ça, c'est l'histoire donc d'un père qui console sa fille. Quand un de nos enfants souffre, on voudrait alléger justement sa tristesse et pourtant élever un enfant, c'est aussi lui donner les armes pour affronter sa peine. Qu'est-ce que vous vous dites pour réconforter un enfant par exemple ? C'est pas facile.
Non, c'est pas facile du tout, mais de toute façon le métier de père c'est pas facile, hein. C'est même le métier de parent, c'est pas un métier facile. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Moi j'essaie de toujours plus ou moins dire la vérité. Heureusement des fois qu'elle a maman qui est là pour être plus douce. Mais ma façon à moi, ça a été plutôt de dire la vérité et de dire, écoute, tu t'en relèveras. Je veux dire, bon, c'est comme ça, la vie, il y a des obstacles, ma foi. Et j'essaie de leur donner un pas trop mauvais exemple. Et puis, oui, c'est ça. Voilà.
Réconforter un enfant, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que ça peut s'apprendre, ça ?
Ben, on apprend quand même. Comme on disait que c'était un métier, c'est un métier dans lequel on peut progresser. Je suis pas tout à fait le même père. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon aîné l'autre jour. ma fille aînée, elle m'a dit, tu t'es beaucoup adouci. Je devais être plus dur au départ. Mais il est vrai que j'avais devant moi l'exemple d'un père, c'est pas, que j'adorais, mais qui était quand même quelqu'un d'assez strict. Et j'ai sûrement dû croire au début qu'être père, c'était très strict, si vous voulez. Donc j'ai certainement pas était le même père pour mes filles qui ont aujourd'hui 35 ou 40 ans que je l'ai été pour le dernier qui a 17 ans, c'est sûr.
Ce titre, Un père s'est fait pour ça, c'est Didier Barbelivien qui l'a écrit. Au départ, vous lui aviez demandé un texte, je cite, sur un vieux type qui vit avec une jeune.
Oui, non, j'ajoute, suivez mon regard.
Oui.
Mais non, c'est vrai, j'aimerais bien pouvoir la chanter un jour, cette chanson-là. Je pense que je la redemanderais. Hein.
C'est difficile comme sujet à aborder encore aujourd'hui, ça, non ?
Oui, d'autant plus que ma femme me dit, pourquoi vous parlez tout le temps ? Bon, on se vous voit. Mais elle me dit, pourquoi vous parlez tout le temps de ça ? Moi, je ne le sens pas comme ça, me dit-elle. Je ne sens pas cette différence d'âge.
Vous vous voyez avec votre femme ?
Oui, on se vous voit, d'accord, nous. Ça n'a jamais changé depuis le premier jour, ma foi. Elle me dit, pourquoi vous parlez tout le temps de ça ? Moi, je ne le sens pas comme ça, je ne le sens pas comme vous. Bon, mais moi, je me sens quand même comme ça. Je pense que j'ai de la chance, après tout, de vivre cette vie-là. Avec quelqu'un de plus jeune que moi.
Mais est-ce qu'on vous renvoie pas toujours à ça, en fait, finalement ? Est-ce que c'est pas la société qui renvoie ça aussi ?
Peut-être.
Puisque elle, c'est pas comme ça qu'elle le vit.
Oui, peut-être. Moi, je suis toujours étonné quand je vois les gens parler de leur âge, en fait. Moi, c'est une chose à laquelle j'ai jamais tellement pensé dans ma vie. Mais peut-être que mon métier m'aide à ne pas avoir de problème avec ça. Ça n'est pas que je sois pas confronté à la concurrence de gens nouveaux. Tout le temps, je suis confronté à la concurrence de gens nouveaux. Mais là, j'y ai jamais tellement pensé, si vous voulez. Mais quand j'étais très jeune, par exemple. On m'y confrontait aussi parce qu'on me disait tout le temps, ah, vous faites pas votre âge. On me l'a dit dès que j'avais C'est vrai que j'ai vu certaines photos. Quand j'ai commencé à chanter à 21 ans, j'avais la tête d'un mec de 16 ans, ça c'est sûr. Donc ça m'a accompagné après dans ma vie. Est-ce que ça m'a fait que du bien ? C'est pas certain. Parce que tout le temps, on me ramenait à ça, on me dit « Ah, vous êtes tellement juvénile, blablabla. »
Et c'est chiant. Au début, c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas envie d'entendre ça. Mais après, quand on vieillit, ça fait du bien quand on nous dit.
Oui, c'est sûr, c'est sympa. Mais enfin bon, ça a un peu été le cadet de mes soucis quand même. Ce n'est pas à ça que j'ai pensé dans ma vie, franchement.
Julien Clerc, Un père s'est fait pour ça. C'est sur l'album Une vie. Album que vous pourrez aussi apprécier sur scène puisqu'une grande tournée se prépare. Dans le rétro, on va continuer notre voyage dans le temps. Vous écoutez ici votre radio.
Ténébreux. Et qu'ici on n'a pas la mer. On a mis le bleu dans nos yeux. C'est dans nos regards qu'on se perd. C'est peut-être à cause du soleil qui nous oublie longue saison. On l'a mis dans nos cheveux blancs. Je suis d'un pays, d'un horizon, d'une frontière. Qui sonne guerre, qui sonne éternel hiver. Et si tu veux m'apprendre, si tu veux vraiment bien me connaître, je suis dans chaque mot, dans chacun de mes gestes. De l'est. Ici le froid glace le corps et la chaleur peut te brûler. Chez nous tout est intense et fort, on fait pas les choses à moitié. Ces croix, ces tranchées. Si l'on sait le prix du sang, l'absurdité des combats quand on est tombé des deux côtés. Je suis d'une région, d'une langue, d'une histoire qui sonne loin, qui sonne bataille et mémoire. C'est lui qui m'a vu naître, qui m'a faite ainsi que je suis faite. Une terre, un caractère, celle que je reste. Je suis de ces gens dignes debout dans leur silence. Parole et parole, promesse à un sens. Et si tu sais comprendre qui je suis, quand j'aime ou je déteste, je t'offrirai l'amour. Sois simple et sincère, toute fille de l'Est. Une fille de l'Est.
13h-14h dans le rétro, c'est un voyage dans le temps au fil de la musique et de la vie de notre invité. Aujourd'hui, nous sommes avec Julien Clerc. Son nouvel album s'appelle Une vie. C'est une parenthèse douce et enchantée, des chansons qui effleurent les souvenirs, les amours et le deuil. On revient dans quelques secondes ici pour la suite de notre balade.
Au taquet, votre jeu de midi, c'est ici, avec Éric Bastien et Valérie Damido.
On adore. J'ai les poils qui sont au plafond du studio. Le gars, c'est le maître des horloges. Tu aimes les gens, tu aimes aider, tu invites tout le monde à manger, t'aimes bien cuisiner. En fait, t'es ma sœur, quoi.
Ici, à midi, on est au taquet.
Former une personne de plus de 50 ans, c'est une blague.
Mais au contraire, pour moi, c'est très sérieux. Quand j'ai formé Marc, 59 ans, à la soudure laser, j'ai su que je pourrais faire confiance à son expérience. En plus, maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Ici.
ICI.
Votre réveil.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque week-end dans le rétro, ici sur votre radio avec Julien Clerc.
Ici, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Julien Clerc, au total, ce sont 28 albums, plus de 50 ans de carrière. Des compositions pour France Gall, Juliette Gréco, Renaud, Marc Lavoine, plein d'autres. Je ne les ai pas tous cités parce que j'allais en oublier.
Il n'y en a pas tant que ça.
Ah ouais?
Non.
En tout cas, pas, des grands noms quand
j'ai
même.
J'ai pas beaucoup écrit pour les autres. Mmh. Pas beaucoup.
Téléportation. C'était il y a quelques mois, nous sommes chez vous, c'est le soir, vous travaillez au casque pour ne réveiller personne. Vous avez reçu le texte Saint-Nazaire de Paul École qui parle de votre frère décédé quelques mois plus tôt dans un accident d'avion. À ces paroles, vous voulez y associer une musique légère, lumineuse. Vous irez vous coucher quand ce sera terminé. Cette nuit, elle a dû réveiller des souvenirs, en vous, un film peut-être dans l'esprit. Elle a été éprouvante, cette nuit-là?
Non, elle n'a pas été éprouvante parce que je travaillais sur un texte que je trouvais beau et que... j'essayais de faire du mieux possible. Par contre, comme c'est une disparition malgré tout mystérieuse, parce qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé, pourquoi cet avion est tombé, il y a plusieurs possibilités. Donc, quand je repense à ça, je me dis toujours, j'espère qu'il n'a pas eu trop peur. Voilà, c'est ça que je me dis. Parce que moi, ça m'aurait terrifié, en fait. Maintenant, peut-être qu'il n'a pas eu peur parce qu'il était tellement pris dans ces trucs qu'il n'a pas vu venir ça, etc. Je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, je remarque que quand je pense à lui, et j'y pense énormément, comme un peu tous les gens qui ont compté pour moi, en particulier mes très proches, même mes parents qui sont quand même partis depuis un certain temps, il n'y a pas de journée sans que je pense à eux. Mmh. Et lui, il n'y a pas de jour sans que je pense à lui. Mais c'est vrai que c'est sans doute ma nature. Moi, je me souviens très peu des trucs tristes de la vie. Et je garde toujours ce qu'il y a de bon. Et comme il était très rieur et très marrant, bah, c'est ça l'image que j'ai. Mais j'ai toujours ce questionnement, mon Dieu, j'espère qu'il n'a pas eu trop peur.
C'est pas difficile d'en parler comme ça quand on vient faire la promo d'un album avec un titre qui parle de son frère, parce qu'on vous en parle souvent dans les émissions. Ouais, vous n'appréhendez pas au départ?
Non,
ça,
parce que comme c'est une chanson, encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure, j'ai pu raconter une chose intime à travers une chanson, ce qui, après tout, est ma vie et mon métier.
Aussi.
Oui. Donc, j'essaie de faire ça du mieux possible. Vous voyez, c'était important pour moi que ma belle-sœur, que mes neveux aiment la chanson. C'est le cas. Et les premiers mots qu'ils m'ont dit, c'est bien parce qu'elle n'est pas triste. Moi, j'avais peur de les rencontrer une fois qu'ils auraient écouté et que, vous voyez, ils tombent en larmes. Bon, ma belle-sœur, c'est certainement, ça lui a fait quelque chose à Julie. Mais mes neveux, c'était très important pour moi qu'ils me disent, c'est bien parce que c'est pas triste.
Saint-Nazaire, c'est ça.
J'y verrai peut-être un présage, un sourire de toi, un message. Je chanterai d'en bas pour toi en échange. Les avions parfois ressemble à des anges.
Est-ce que vous croyez aux anges?
C'est-à-dire que je ne suis pas religieux, mais c'est un mot que j'aime bien en tout cas, et une image que j'aime bien, les anges. Et puis, je me dis que peut-être, il y a un ange que je fréquente maintenant, vous avez dit tout à l'heure le nombre d'années, qui ne m'a pas trahi jusqu'à maintenant, c'est l'ange de la musique. Donc...
Julien Clerc, vous dites que le texte de Saint-Nazaire est grave, mais qu'il n'invite jamais à la lamentation. Se lamenter, c'est ressasser, c'est entretenir sa peine, c'est quelque chose à éviter, selon vous.
Ah oui, absolument. Mais j'ai la chance de ne pas avoir cette nature-là.
Mais oui, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un temps pour se lamenter, pour accepter aussi les choses par la suite? Est-ce qu'on ne doit pas passer par là? Est-ce que justement le fait de vouloir toujours dépasser
Ça, c'est une nature, si vous voulez. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas cette nature-là.
C'est une force?
Je ne sais pas si c'est une force, mais en tout cas, c'est une façon d'être dans la vie qui m'évite certainement des chagrins.
Julien Clerc, pour terminer ce voyage, on va regarder vers l'avenir.
L'avenir est aussi, je crois, qu'une étoile, est-ce que tu la vois? Une minute, juste toi et moi. L'avenir est en fait un tout et s'écroule sans l'un d'entre nous. Et s'écroule sans l'un d'entre nous.
Ce titre, c'est l'avenir d'un couple, le futur d'une histoire d'amour. Mais quand on parle de l'avenir, on pense aussi à l'avenir de nos enfants. Quand on est père, on pense forcément à eux. Vous êtes inquiet pour l'avenir de vos enfants?
Dieu merci. Je dis Dieu merci n'étant pas religieux, mais c'est une expression. Mais je crois quand même en l'humanité. Mais je pense que dans les années à venir, l'homme va avoir besoin de génie, oui, pour se sortir d'une situation qui est certes pas... C'est vrai que j'y pense maintenant, j'y pensais pas avant. Mais j'y pense au monde, effectivement, qu'on va laisser à nos enfants, c'est pas super réjouissant.
Voilà. Pourquoi vous n'y pensiez pas avant?
Sûrement j'avais un côté homme pressé, et puis j'ai eu la chance de traverser des périodes assez dorées de l'humanité, si vous voulez. J'ai eu 20 ans, un moment où c'était très excitant d'avoir 20 ans, plus qu'aujourd'hui, je trouve. Ouais. On avait de meilleurs sentiments sur l'avenir, on avait plus de rêves sur l'avenir, etc. Je sais pas si on a réussi, peut-être pas complètement, d'ailleurs. Donc, ayant vécu ces périodes-là, étant né pendant ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, c'est ça,
ouais, ouais,
c'est
ça.
On n'a peut-être pas suffisamment dû, d'ailleurs, penser à la planète et tout. On était assez inconscient dans ces moments-là. Aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent avec un lourd fardeau et une grande montagne à gravir devant eux. Mais je crois quand même dans le génie humain, moi. Et je me dis que l'homme, encore une fois, s'en sortira.
Merci, Julien Clerc. On termine là-dessus?
Mais oui, c'est génial. Merci.
Merci à vous. Une vie, c'est le 28e album de Julien Clerc. Ce sont des chansons d'amour, des chansons refuge, des chansons intimement liées à ce que chacun de nous peut vivre. Il traverse les joies, les peines, les douleurs, les doutes. Merci d'avoir fait cette balade avec nous. On se retrouve en podcast ou ici sur votre radio, dans le rétro. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Salut.
J'ai passé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Les larmes est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. Le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis
suis au fond de...